9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
C'est en direct de Doha que Maître Serran et Monsieur Philippe Robichon vous saluent, camarades auditrices et auditeurs. D'ailleurs, ici, il est 11h, et oui, nous avons réussi à obtenir de notre généreuse radio la possibilité de nous rendre au Qatar pour une émission spéciale. Mais que nous soyons en France ou à l'étranger, le principe de l'émission reste le même, tenter de répondre à vos questions de droit et exclusivement de droit. Bon, allez, j'arrête, on leur dit la vérité aux auditeurs. Nous ne sommes pas
on
au
est
Qatar.
À Charenton, c'est le mec qui se la raconte, sur le périph.
Oui, mais pourquoi ? Il n'y avait pas assez de budget pour nous deux. Eh oui, on me dit que c'est à cause de votre salaire exorbitant qui vous est versé. Mon cher Philippe, faites un effort, s'il vous plaît. Hein, si vous pouviez vous sacrifier, ne serait-ce qu'un mois avec votre salaire, on aurait pu programmer ce fameux voyage, voire même un voyage autour du monde, à pied, évidemment. Bon. Allez, hein, cette Coupe du Monde, qu'en pensez-vous, Maître Serran ? Alors, je sais, ça peut paraître curieux que Maître Serran pose des questions à Maître Serran, mais j'ai toujours trouvé très intéressant de parler à ma personne. Eh bien, puisque vous m'interrogez sur cette Coupe du Monde, Maître Serran, voici ma réponse. Je constate que les grandes équipes, entre guillemets, se font fracasser le crâne. Eh oui, l'Argentine de Messi qui perd contre l'Arabie Saoudite, 1-2. Qui aurait pu imaginer un tel séisme ? La National Mannschaft qui perd contre le Japon, 1-2. Et là, dans mon esprit, après ce match, c'était retour vers le futur. Nous sommes le 16 juin 1982, j'ai alors 14 ans, je suis beau gosse, athlétique, beaucoup de cheveux. Nous sommes en Espagne, plus précisément à Gijón. L'Algérie affronte l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, championne d'Europe en titre et déjà vainqueur deux fois de la Coupe du Monde. Alors que l'Algérie participe pour la première fois à la Coupe du Monde, les Allemands, d'une arrogance sans limite, sont persuadés de battre largement l'Algérie. Sauf que l'attaquant algérien Rabah Madjer permet à son équipe de prendre l'avantage à la 54e minute. Et puis, égalisation avec un but de Rummenigge. Et enfin, le coup de grâce, l'attaquant Lakhdar Belloumi marque le second but des Fenech à la 76e minute. Harald Schumacher, alors meilleur gardien du monde, est battu. Les Fenech s'imposent, c'est l'un des plus grands exploits du football africain. Le résultat est historique, hein. C'est la première fois qu'une équipe européenne perd face à une équipe africaine en Coupe du Monde. Ah, ça m'a fait du bien, mon cher Philippe, de revivre ce match que je raconte régulièrement à mes enfants. Mais la suite est bien triste, hein. L'Algérie sera éliminée, la compétition victime du match dit de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche. Oh, j'en pleure encore. Et puis, cette année, pas de Coupe du Monde. Mais cela n'empêche pas de voir régulièrement le drapeau algérien bien affiché, et le plus souvent derrière le gardien de but, histoire qu'on soit sûr de passer à la télé. Ah, je reconnais bien là l'Algérien. Il est fier de son drapeau. Alors, c'est vrai qu'il est beau, ce drapeau. Et pas parce que je suis algérien, hein, que je dis ça, non. C'est vraiment en toute objectivité. Allez, que vous soyez algérien ou pas, que vous parliez allemand ou pas, que vous soyez algérien parlant allemand, n'hésitez pas à nous contacter au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui en 1982 avait déjà 60 ans. Alors je vous laisse calculer son âge aujourd'hui. À vous, Maestro.
Sans les taxes, Maître Serran. Attendez, il faut rajouter la TVA. On serait bien mieux à Doha, en tout cas. Moi, je vous dis tout de suite.
Ouais, on est d'accord. Mais ça peut se négocier ou pas avant que la Coupe du Monde se termine ? Enfin, on peut faire l'après-Coupe du Monde, moi ça me dérange pas.
L'after, non, aucun intérêt.
Non, c'est pas grave, ça me dérange pas, je vous dis.
C'est pas vrai, j'ai voulu vous emmener à Doha un jour, vous n'avez pas voulu y aller. Alors, c'est maintenant que vous voulez y aller ?
Là, oui.
Oui, voilà, donc vous êtes paradoxal, Maître Serran.
Alors, est-ce que ça peut se négocier ou pas ? Voilà, c'est la question.
Négocier, oui, on peut négocier. Et maintenant, est-ce que ça peut se remporter ?
Non.
Je suis pas certain, Maître Serran.
Ah, c'est dommage. Ouais. On aurait été bien là-bas.
Moi, les Japonais, ils m'ont éclaté. Hein.
Ouais.
Franchement.
Ouais.
Ils jouent vite, c'est un truc de folie. Je sais pas ce qu'ils mangent, mais.
Ah. Franchement, là, les grandes équipes, pour l'instant en tout cas. Alors, ce serait bien qu'une de ces équipes, pas entre guillemets, dites non favorite, puisse gagner la Coupe.
Ouais, ça changerait.
Ouais, franchement.
Ouais, ça changerait, ça serait bien. Ouais.
Bon, ça va. L'Allemagne, la France, l'Espagne, Portugal. Bon, on n'a pas l'Italie. Ils se sont fait gifler il y a longtemps. Mais ça ferait du bien quand même. Ça apporterait un petit coup de neuf.
Bon, Maître Serran sur Beurre FM, je rappelle que le samedi entre 9h et 10h, Maître Serran se lève pour répondre à vos questions. Et si vous avez des questions, eh bien vous les poserez tout à l'heure au 01 53 48 3000. Si vous êtes sponsor et que vous avez des billets d'avion pour aller au Qatar, mais après de l'hébergement, parce que ça ne suffit pas que d'y aller, Maître Serran, il faut s'héberger là-bas des places pour aller voir les matchs.
Bien sûr.
Maître Serran attend également vos appels au 01 53 48 3000. Alors, on va aborder un sujet sur lequel il y a beaucoup de, comment dirais-je, de clichés qui circulent et de fausses informations. Alors, est-ce qu'on peut enregistrer son employeur à l'insu de son plein gré? Et là, je parle de son et de vidéo.
Alors, c'est une question qui est très souvent posée là, depuis quelques années. Alors, je crois que c'est dû également au fait que chacun d'entre nous a maintenant son smartphone et puis on peut le déclencher à tout moment. On ne vient plus avec son gros appareil pour pouvoir enregistrer X ou Y. Et souvent, la question est posée. Elle est posée à quel moment? Elle est posée très souvent au moment où alors d'abord, on sent qu'il y a, entre guillemets, une mauvaise ambiance, pour ne pas dire un clash avec son employeur, et que l'employeur donc est amené à vous convoquer. Alors ça peut être pour un entretien préalable. Et souvent, on pose la question en disant « Mais est-ce que je peux enregistrer cet entretien préalable ?» Parce qu'il faut savoir quand même, et c'est vrai que c'est une particularité de cette procédure, que dans le cadre d'un entretien préalable, contrairement à ce qu'on peut croire, vous n'êtes pas invité à venir avec votre avocat. Alors vous pouvez venir avec un représentant syndical, mais pas avec votre avocat. Sauf que on entend dire aussi très souvent que, alors après, c'est établi ou pas établi, qu'il n'y a pas forcément une confiance absolue envers le représentant syndical. C'est aussi en fonction de la taille de la société. Donc, quand on a un doute, parfois, on se dit, est-ce que je peux venir avec l'avocat? Alors non, l'avocat n'est pas invité pour le moment à ce type d'entretien. C'est d'ailleurs assez surprenant et on voit pas pourquoi ça pourrait ne pas évoluer en la matière. Et lorsque la personne ne prend pas de délégué syndical, alors soit parce que la structure de la société ne le permet pas, soit parce que j'ai pas envie d'eux, se pose la question de savoir est-ce qu'on peut enregistrer cette conversation. Alors, il n'y a rien qui interdit d'enregistrer une conversation, mais à partir du moment, évidemment, où vous informez votre interlocuteur de manière officielle en lui disant « bien, je vais enregistrer ce qui se dit entre nous », pour peu que l'interlocuteur, et très souvent c'est le cas, dise « bah non, c'est hors de question », en principe, ça s'arrête là, donc on ne peut pas enregistrer. Et si on ne peut pas enregistrer de manière officielle, eh ben on va le faire de manière officieuse. Mais une fois que vous avez graver la parole de l'interlocuteur, qu'est-ce qu'on en fait, puisque vous l'avez fait en toute illégalité? Donc la question se pose, en droit on parle de recevabilité des preuves, c'est-à-dire que si vous êtes en litige ou vous retrouvez devant un conseil de prud'homme, qu'est-ce que je peux faire de ces preuves-là? Alors d'abord, contrairement au film américain, il faut savoir que dans le cadre d'un procès, devant un conseil de prud'homme ou pas, peu importe, mais dans le cadre d'un procès, vous avez toujours l'obligation d'informer votre adversaire, et ça se fait d'avocat à avocat ou de partie à partie, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas d'avocat, vous devez communiquer à l'avance les éléments sur lesquels vous allez vous baser, c'est-à-dire les éléments que vous allez invoquer devant le conseil de prud'homme, devant un tribunal. Je dis, il n'y a que dans les films américains où il y a la preuve surprise, où le type dit « mais attendez, j'ai ça contre la partie adverse ». En France, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si il y a un élément que vous n'avez pas communiqué préalablement à la partie adverse, et le jour de l'audience, vous dites au magistrat « j'ai un élément que je vais vous soumettre », le juge va de facto écarter cet élément-là, c'est-à-dire qu'il ne pourra ni le lire, ni l'écouter. Donc, à partir du moment où vous devez déjà transmettre l'enregistrement, alors très souvent, on ne transmet pas l'audio, mais on fait transcrire par un commissaire, en tout cas par un huissier de justice, donc les commissaires de justice, vous allez avec votre petite bande sonore, avec votre téléphone, et puis il va retranscrire ça. Mais si vous donnez ça à la partie adverse, immédiatement, on demandera ce qui s'appelle l'irrecevabilité de la preuve. Mais rien n'interdit au conseil de prud'homme de prendre connaissance quand même, même si je viens de vous dire qu'a priori c'est pas recevable, rien n'interdit au conseil de prud'homme de lire cette transcription. Alors pourquoi lire cette transcription? Parce que le conseil de prud'homme va quand même vérifier si la partie adverse était, on va dire, plus ou moins consciente de cet enregistrement, lorsqu'il va y avoir l'échange entre les uns et les autres, il pourrait apparaître, même si l'employeur ne dit pas de manière très précise « je vous autorise à m'enregistrer », si il le sait qu'il y a quand même un enregistrement qui se fait et qui ne s'y oppose pas par principe, ce serait recevable. Donc, ne serait-ce que pour déterminer ça, le magistrat va quand même lire cet enregistrement. Mais à ce stade-là, à ce stade-là, si on ne démontre pas que l'employeur savait qu'il était enregistré, à ce stade-là, au stade de ce qu'on appelle la jurisprudence, les enregistrements sont considérés comme illégaux. Donc, ils seront écartés des débats. On espère quand même ce qui s'appelle un revirement de jurisprudence. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que lorsque votre employeur, parfois, vous espionne, c'est-à-dire que si, alors je ne sais pas si au sein de Beurre FM, vous avez
des micros,
alors, des caméras.
Si. Enfin,
voilà, alors,
il y en a.
D'accord. Bon.
On soupçonne qu'il y ait des micros.
Ah, d'accord.
Qu'on n'a pas trouvé encore. Mais il y a des caméras. Il y en a une. Elle est où, Jojo ? La caméra, elle est où, Jojo ?
Il y en a une juste au-dessus de.
Au-dessus de toi ?
Au-dessus de moi.
Voilà, il y a une caméra.
Donc si je fais un signe, on me voit.
Ah, ben vous êtes vu.
J'ai un pouce.
Faites coucou à Samir.
Samir, depuis longtemps d'ailleurs. D'ailleurs, Samir, si tu m'écoutes, ouais, n'hésite pas à m'appeler.
Mais vous pouvez faire un coucou à Nabil.
À Nabil aussi.
Je crois que Jima aussi a accès. Enfin voilà. Donc,
d'accord.
On est fliqué, mais ça on le sait.
Alors voilà.
Celle-là on sait. Alors, Par contre, pour les micros, on ne sait pas.
Alors le problème se pose à partir du moment où il y a un élément qui arrive sur la table et c'est un élément qui ne vous a pas été préalablement soumis.
Voilà, il y a quand même une chose qui m'inquiète, Maître Serran, c'est que quand on veut prouver le harcèlement moral, qu'on est harcelé, pensez bien qu'on ne va pas dire à la personne qui vous harcèle, attention, je vais t'enregistrer.
On est entièrement d'accord. Vous savez, c'est dans beaucoup, d'ailleurs, de dossiers de cette nature, c'est la difficulté. C'est-à-dire, ce qui peut se passer, par contre, puisque vous évoquez le harcèlement moral...
Qui est difficile à prouver, c'est pour ça que j'évoque.
Bien sûr, mais c'est une réalité.
Le fait de pouvoir enregistrer quelqu'un qui ferait, par exemple, du harcèlement.
Bien sûr, mais d'ailleurs, lorsqu'on est consulté, on nous parle de harcèlement moral, parfois la réponse peut déconcerter. C'est-à-dire que quand on nous dit, écoutez, je peux avoir des preuves dans les conditions qu'on vient d'évoquer, notamment des enregistrements, et qu'on leur explique que devant un conseil de prud'homme, cet enregistrement pourrait être déclaré irrecevable. On nous dit à leur maître, je fais comment ? Donc c'est vrai que ça peut poser une difficulté. Mais on est en matière pénale et il faut savoir qu'en matière pénale...
Ah donc oui, parce qu'on n'est pas devant le même tribunal.
Voilà. En matière pénale, alors, le harcèlement moral, vous pourriez l'invoquer devant le conseil des prud'hommes, mais avec les limites qu'on vient d'évoquer. Par contre, pour contourner ces limites-là, vous avez la possibilité d'aller sur le terrain du pénal, donc de déposer plainte auprès du commissariat, de saisir le procureur de la République, éventuellement de faire citer la partie adverse. Au pénal, donc cette plainte et ces preuves seront ou seraient recevables à partir du moment, même si vous les avez obtenues de manière, on va dire, illégale, mais à partir du moment où elles établissent la réalité des faits, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si je présente des preuves et à la lecture, à l'écoute de ces preuves, il est certain que l'employeur est bien à l'origine de harcèlement, il n'y a pas de difficulté. Il sera condamné et on ne peut pas vous embêter sur la manière dont vous avez obtenu ces preuves. Mais imaginez 30 secondes que vous présentiez ces preuves, que ces preuves n'aboutissent à rien. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de présenter des preuves pour qu'un tribunal dise « bah oui, cher employeur, je vais vous condamner ». Mais imaginez 30 secondes que ça n'aboutit pas, que l'intéressé est relaxé, que le procureur de la République décide de classer sans suite. Votre employeur, bien évidemment, pourrait se retourner contre vous, puisqu'on est en matière de dénonciation calomnieuse. Donc quand vous faites un truc pareil, quand vous avez un enregistrement, il faut quand même vous assurer que cet enregistrement va avoir un certain effet auprès des magistrats.
Si on prend, Maître Serran, le cas d'un entretien donc, qui se fait entre le salarié et le chef d'entreprise ou son responsable hiérarchique, est-ce que le dit responsable hiérarchique pourrait demander au salarié de laisser son portable en dehors de la pièce où a lieu l'entretien ? Est-ce que ça serait, on va dire, juridiquement possible ?
Non, en fait, encore une fois, il n'y a rien qui permettrait à cet employeur d'exiger ça, puisque je ne peux intervenir, j'allais dire, qu'après coup. C'est-à-dire, je ne peux pas anticiper et considérer que vous allez être de facto de mauvaise foi, ou alors dans ce cas-là, je vous demande de vous déshabiller complètement et je vous fais passer devant un scanner. Mais donc non, je ne peux pas anticiper, sauf si évidemment on a déjà eu un litige.
Non, je n'ai pas le droit de demander aux salariés
de laisser, son,
de laisser
téléphone,
son portable, voilà, en dehors de la pièce.
Alors, ça peut se faire quand on a, mais on oublie entre guillemets l'aspect litige, ça peut se faire quand vous êtes dans une réunion très particulière où il y a, j'allais presque dire, des secrets d'État, des secrets de fabrication entre les uns et les autres. Donc il y a, on essaie de, enfin la société se préserve, mais ça s'implique à moi et ça s'applique aux personnes qui font partie de la réunion. Mais dans le cas d'un entretien préalable, donc où a priori j'envisage de vous licencier, j'ai pas à exiger de vous de laisser votre téléphone au vestiaire, parce que ce serait préjugé. Voilà, je pourrais le faire si on a déjà eu un problème tous les deux à la suite d'une histoire de téléphone ou d'enregistrement pirate, et ça je peux l'acter, mais je peux pas spontanément vous dire l'entretien commence à 14h, merci, le téléphone vous le laissez à l'extérieur. Que j'ai pas, en tout cas moi, employeur, j'ai pas ce pouvoir-là. Donc je peux pas vous l'imposer.
Vous dites que dans le cadre d'un prud'homme, on tient pas compte d'un enregistrement, mais ça influence quand même.
Alors c'est une réalité.
Même si on dit qu'on n'en tient pas compte, mais qu'on a la transcription de la conversation.
Mais vous avez raison, vous savez, c'est aussi, c'est utilisé parfois par les avocats où, quand on verse une pièce, on va dire à la dernière seconde, et que légitimement, hein, la partie adverse dit au magistrat, attendez, je demande à ce que cette pièce soit écartée des débats. Bah, une fois qu'elle a été évoquée, qu'on le veuille ou non, puisque on n'a pas affaire à une machine, qu'on le veuille ou non, le cerveau humain est comme ça. C'est-à-dire que quand vous l'avez évoqué, moi je peux pas croire. Encore une fois, on voit souvent ça dans les films où le président du tribunal dit tout ce qui vient d'être dit, vous l'oubliez, vous
n'en tenez pas compte. Mais
voilà, donc on sait très bien que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Alors évidemment, ça va pas faire basculer le procès, mais de facto, forcément, il y aura un petit truc à l'esprit.
Vous posez vos questions à Maître Serran en direct dans un instant et vous appelez le standard de Beurre FM, c'est le 01 53 48 3000 que vous composez, 01 53 48 3000.
Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, c'est votre consultation de droit. Hein. Si vous avez une question juridique, c'est très simple. Eh bien, vous la posez en direct sur Beurre FM à Maître Serran au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, ce qu'on comprend également, vous avez la possibilité d'appeler Maître Serran sur son téléphone cellulaire, comme on l'appelle. Hein,
oui,
Maître,
il y a longtemps le terme téléphone
cellulaire.
C'est son GSM. Voilà, donc je suis joignable sur mon GSM au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
On parlait d'enregistrer son supérieur hiérarchique tout à l'heure. Est-ce qu'on peut l'enregistrer au téléphone ?
Mais même chose, c'est-à-dire que évidemment techniquement ça pose pas de difficulté, mais on en fait quoi ensuite de cet enregistrement ? Si vous enregistrez quelqu'un, c'est qu'a priori, enfin sauf si vous êtes un maniaque de l'enregistrement et puis vous stockez ça et vous écoutez ça très régulièrement, mais ça relève de la psychiatrie. Mais si vous enregistrez quelqu'un, c'est pour a priori à un moment ou à un autre, en tout cas tenter de l'utiliser contre cette personne. Donc même chose, si je vous ai au téléphone mon cher Philippe et je vous dis écoutez, je suis en train de vous enregistrer, est-ce que vous acceptez ? Vous répondez oui, volontiers, il n'y a pas de difficulté, dont acte, il n'y a pas de problème. Si on est en train de parler ensemble et je vous enregistre à votre insu, eh oui, voilà. C'est moi, ça m'arrive jamais, hein, je suis navré.
En fait, votre téléphone sonne à votre insu, c'est ça, Maître Serran ?
Pardonnez-moi, j'aime pas ça. Mais en plus, il s'éteint pas, je suis désolé.
On dirait l'imam.
Général, oui, c'est vrai, en fait.
En général, c'est Abdelhamid Mamoun.
Ouais, mais, alors, vous savez ce que je vais faire? Je crois que je vais l'éteindre parce que.
Ou asseyez-vous dessus.
Ça va me faire vibrer.
le fiacre. Là, c'était pas un vibreur.
Ouais. Bon, donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc.
Si on enregistre, c'est qu'on veut l'utiliser.
Voilà. Donc, à partir du moment où, alors, vous vous présentez, dans le cadre d'un litige, cet enregistrement, la question se reposera. C'est-à-dire qu'évidemment, en face, on va demander, d'écarter cet enregistrement des débats, et puis le président du tribunal, évidemment, va demander à ce que cet enregistrement ne soit pas pris en considération.
Maître Serran, je vous demande d'accueillir Sophia au 01 53 48 3000. Sophia, vous êtes la bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Sophia.
J'ai une question, Maître, parce que j'ai un jugement au mois de janvier pour... parce que j'ai attaqué mon employeur pour licenciement pour inaptitude. Et Et là, je voudrais, parce qu'il m'a payé, il m'a payé et tout. Là, je veux retirer mon dossier. Comment je fais?
Bon, ben c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que si vous considérez que les raisons pour lesquelles vous avez saisi le conseil de prud'homme ne sont plus réunies, parce qu'il vous devait peut-être des salaires et autres, et que tout a été fait, vous pouvez vous désister. Alors vous désistez, c'est-à-dire que vous allez sur place et puis vous prévenez le magistrat en disant « Écoutez, je vous ai saisi et puis on y met fin ». Il faut prévenir quand même l'employeur parce que l'employeur aurait le droit, ça peut sembler curieux, mais c'est comme ça, l'employeur aurait le droit de dire « Attendez, vous m'avez poursuivi, moi, devant le conseil de prud'homme, ça m'a, entre guillemets, embêté, causé un préjudice, j'ai peut-être eu des frais si j'ai fait appel à un avocat ». Donc l'employeur pourrait dire « Moi, je veux pas ce désistement », c'est-à-dire que madame veut se retirer, c'est son problème, mais moi, je demande quand même au conseil de prud'homme au moins de se prononcer sur... le remboursement des frais que j'ai pu engager pour faire face à madame. Donc, il serait bon, alors d'abord de pas attendre la dernière fraction de seconde, mais il serait bon quand même de vous rapprocher de la partie adverse et de la prévenir que, si ça s'est réglé entre vous, que vous envisagez de mettre fin à ce litige et de ne pas vous présenter.
Alors comment on fait dans ces cas-là ?
Vous envoyez un courrier ou alors un mail à minima à la société d'abord. Ouais. Ensuite, envoyez même chose un mail ou un courrier au conseil de prud'homme. Dans l'hypothèse où vous avez un doute ou si votre employeur, par exemple, ne vous a pas répondu, n'oubliez pas quand même que le désistement sera acté le jour de l'audience. C'est-à-dire que j'envoie un courrier d'accord, mais je veux quand même m'assurer que le jour de l'audience, le conseil de prud'homme a bien pris acte de ce désistement.
C'est-à-dire qu'il faut aller se présenter le jour de l'audience.
Il faut quand même aller se présenter, c'est ce que je disais, parce qu'il n'y a rien qui interdit à l'employeur d'être présent physiquement ou de se faire représenter et de dire « D'accord, madame veut se désister, mais moi, ça m'a causé un préjudice, donc je veux que le dossier soit retenu. » Et donc, elle pourrait, alors ce serait absolument injuste, mais elle pourrait être condamnée, alors ce ne sont pas des sommes folles, mais c'est quand même pénible, être condamnée à rembourser, par exemple, les frais de l'avocat de la société, si la société a fait appel à un avocat. Donc, vous prévenez l'employeur, vous prévenez le conseil de prud'homme, mais le jour de l'audience, moi, je vous invite quand même à être présente, sauf, évidemment, si l'employeur vous a envoyé un courrier pour dire « Voici la copie du courrier que j'envoie au conseil de prud'homme pour dire « Madame se retire, on en prend acte ». Vous voyez, donc il faut quand même cet élément-là. Mais si votre employeur, madame, n'est pas revenu vers vous, s'il vous a pas confirmé par écrit qu'il accepte lui aussi ce désistement, il faudra ce jour-là quand même être présente, quitte juste à dire écoutez, voilà, j'ai saisi le conseil de prud'homme et puis la société m'a payé, maintenant je me retire. Mais faut vous en assurer quand même pour éviter les mauvaises surprises.
C'est-à-dire que le fait de dire qu'on ne maintient pas la poursuite, ça n'annule pas le jour dit
En fait, ça peut annuler si on est certain que la partie adverse ne se présente pas. Je saisis le conseil de prud'homme, je me présente pas, la partie adverse ne se présente pas, l'affaire est radiée. C'est-à-dire qu'on dit, c'est terminé, et puis si un jour j'ai un certain délai et je veux rétablir le dossier, il faut que je ressaisisse le conseil de prud'homme. Mais si je dis, ou je me présente pas et je dis au conseil de prud'homme, je suis pas là, il n'y a rien qui interdira la partie adverse de dire, mais moi, encore une fois, ce qui est une réalité, ça m'a causé un préjudice. J'ai été tracassé, j'ai éventuellement fait appel à un avocat, ça m'a coûté des frais. Moi, je veux quand même que vous preniez une décision pour... On appelle ça en droit une procédure abusive, c'est-à-dire pour dire cette personne m'a poursuivi devant le conseil de prud'homme alors que manifestement c'était pas utile. Mais ça vaut quelle que soit la nature de la procédure, c'est pas spécifique au conseil de prud'homme. Donc encore une fois, sauf si votre employeur madame vous a envoyé un mail, un petit courrier pour dire OK, on en reste là et on n'en parle plus. Si vous n'avez pas la preuve de ce retour de l'employeur, ça coûte rien quand même d'aller sur place pour vous assurer que le désistement a été pris en considération.
Sophia, il vous a dit quoi votre employeur ?
Au contraire, il me demande de rembourser 2 000 euros trop perçus, qu'ils m'ont donné trop perçus. C'est ça.
Ah bah c'est peut-être pour ça que vous voulez vous retirer. Donc c'est pas la même chose,
oui,
madame.
C'est-à-dire
que.
C'est ça,
ouais. Mais... Ah non, mais le truc, c'est que si d'abord, d'après vous, ce trop perçu est une réalité ou pas?
Ben, j'ai pas fait les calculs. Il faut que je fasse le calcul.
C'est alors conseil. C'est mieux de faire les calculs avant de saisir un conseil de prud'homme. Voyez, parce que il faut savoir que si vous saisissez le conseil de prud'homme, si le dossier se maintient, et a priori, de ce que vous êtes en train de me dire, il est peu probable que l'employeur dise « oui, ok, c'est pas grave, elle s'est trompée, donnez-lui acte de son désistement », c'est vous qui pourriez être condamné donc à payer la société. Donc avant de saisir, que ce soit un conseil de prud'homme ou autre, mais avant d'engager un procès, il faut quand même être, entre guillemets, certain de son truc. Et la difficulté, c'est que de ce que vous êtes en train de me dire, et vous n'êtes pas sûr, si vous me dites que vous devez faire les calculs, c'est que peut-être il aurait raison. D'abord, un, vous pouvez être condamné à rembourser ce trop perçu. Deux, il pourrait y avoir des dommages et intérêts. Et le remboursement des frais de l'avocat de la société. Donc, ouais, il y a intérêt à faire rapidement ces calculs, madame. Et puis, d'accord. Si effectivement vous considérez que l'employeur a raison, bah vous pouvez ensuite, en tête à tête, discuter avec l'employeur et dire, bah écoutez, on peut envisager des modalités de remboursement. C'est-à-dire que ça peut se régler, on va dire, à l'amiable entre vous, sans que le conseil de prud'homme soit saisi. Parce que, à l'amiable, bon, vous allez rembourser ce qu'il y a à rembourser. Devant un conseil de prud'homme, vous pouvez être condamné à rembourser le montant. Mais je le redis, il y a des frais en plus. Et parmi les frais les plus élevés, il y a les frais d'avocat si la société recourt à un avocat. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Hein.
Mm-hmm. Oui, d'accord. Et même si je prends un avocat pour retirer le dossier, ça...
Non, mais vous comprenez bien que ce que je vous dis là, que ce soit vous seul ou un avocat, ça ne change rien sur la démarche. L'avocat...
Il n'y a pas besoin d'avocat, là.
Non, on est devant le conseil de prud'homme, l'avocat n'est pas obligatoire. Donc, encore une fois, je dis très souvent, il est fortement conseillé, mais... si vous prenez un avocat, il vous dira en gros la même chose que moi, c'est-à-dire que il va contacter la partie adverse. Si la partie adverse lui dit « Attendez, vous êtes gentil, mais madame nous doit 2000 euros », il vous posera la question « Madame, est-ce que cet argent est dû ou pas ?» Donc vous allez refaire les calculs. Et si, à la suite de ces calculs, il est établi qu'effectivement vous devez de l'argent parce qu'il y a eu un trop perçu, vous serez condamné à le rembourser. Alors, il faut faire attention à cette histoire de trop perçu, parce que souvent, on l'entend, ça peut arriver que sur un plan comptable, il y ait un trop perçu. Mais trop perçu, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que cet argent, moi, société, je voulais virer sur votre compte bancaire, mais à la suite d'une erreur. C'est-à-dire que ce n'est pas un argent qui correspondrait à un travail qui a été effectué. Donc ça peut, entre guillemets, dans un premier temps, faire plaisir de voir son compte crédité, mais cet argent, de facto, faut le restituer, faut le rembourser, puisqu'il correspond pas, encore une fois, aux conditions du contrat de travail. C'est une erreur. Voilà, je me suis trompé, je vous ai donné un peu plus que ce qui était dû, merci de me restituer le trop perçu. Donc si c'est vraiment ça, madame, il vaudrait peut-être mieux essayer de contacter la société, quitte à demander un échelonnement, que de se retrouver devant un conseil des prud'hommes et peut-être d'être condamné à des dommages et intérêts.
D'accord. OK.
Voilà, merci. Sophia, ce que Maître Serran pouvait vous dire.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Sophia, pour votre appel. D'autres questions juridiques à Maître Serran, 01 53 48 3000. Je vois que Giovanni veut intervenir.
Ouais, si on sort complètement du cadre du travail, au cas où je reçois un virement d'une personne qui, à la base, ne voulait pas m'en faire un, est-ce que je suis obligé de lui rembourser cette somme ?
Puisque ça ne correspond à rien, enfin, sauf à démontrer que c'est un cadeau.
Non, mais c'est une erreur.
Non, mais c'est
pas justement. C'est une erreur de virement.
Et alors, quand même, c'est une erreur. C'est-à-dire que je me trompe, mon cher Philippe, je vous vire 150 000 euros. Je me trompe.
Ouais.
Merci de me restituer cet argent puisqu'il ne correspond à rien.
C'est vous qui vous êtes trompé.
Oui.
Vous voyez,
c'est comme si tu trouvais 150 000 euros cash dans la rue.
Voilà, c'est pas moi qui suis allé chercher l'argent.
Mais j'entends bien. Mais c'est une erreur, ce qui peut arriver. Donc, mais on va pas sanctionner mon erreur en disant, ah ben non, cet argent, il reste à X ou à Y. Il faut, encore une fois, sauf si c'est, je suis généreux et puis je vous fais ce cadeau-là. Pourquoi pas? Mais si on n'est pas dans le cadre d'un cadeau, il faut que ce montant puisse correspondre à quelque chose qui a été fait. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Là, il n'y a pas de contrepartie. C'est effectivement une erreur. Donc cet argent devra être restitué. Donc Giovanni, merci de restituer l'argent à la personne qui vous a viré ça.
C'est combien, Jojo?
Ouais, parce que s'il pose la question, c'est pas de...
Oui, non, hein,
voilà, on le sait.
J'ai reçu un virement de 50 euros.
Ouais.
Et donc je me suis demandé d'où venaient ces 50 euros.
Et alors d'où ils viennent?
Bah je sais pas. C'est ça le problème.
Bon, tant que la personne ne s'est pas manifestée, en même temps, enfin voilà, tu peux attendre.
Je peux dire que c'est un cadeau du ciel.
Non, mais normalement, sur un virement, t'as un
libellé. Normalement, il y a des petites informations.
Il y a un intitulé.
Ben, je dois prendre contact avec la banque pour savoir de qui vient ce virement, car je ne sais toujours pas de qui...
Non, mais vaut mieux le faire, parce que, comme dirait l'autre, ayons l'esprit tordu. Si demain, j'essaie d'impliquer Giovanni dans une quelconque affaire un peu louche, on pourrait dire, bah oui, mais moi j'ai, alors là, 50 euros, comme dire l'autre, c'est une baraque de shit.
C'est pas super louche.
Ouais, voilà. Ouais. Mais si c'est un montant important, on se dit, bah tiens, personne ne le réclame. Moi, je crois qu'il faut quand même se poser la question, parce que vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver dans une affaire merdique et à la fin de dire, mais attendez, il y a un virement qui a été fait sur son compte.
Allez, d'autres questions à Maître Serran dans un instant. Vous appelez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et un numéro de téléphone pour poser vos questions à Maître Serran. Je vous rappelle que tout à l'heure, à 10h, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera avec nous en direct. Houssine est avec nous et Houssine nous appelle de Vénissieux. Bienvenue, Houssine.
Ouais, bonjour.
Bonjour, Houssine.
Bonjour, monsieur Philippe.
Ça va, Maître Houssine?
Maître Serran est à côté de vous?
Ouais, je vous parle. Enfin, j'écoute, il n'est pas à côté, en fait, non, il est en face.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Un homme très particulier, ouais. En plus, hein, pas juste en face.
Ouais. Ouais, mais c'est une question. Moi, j'ai ma mère qui était. Elle a eu la conversion de la retraite de mon père, qui a été cédé en 2013.
Ouais.
Et donc, elle avait.
Son de reversion, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Elle avait une petite retraite de 311 euros à toucher par mois. Donc, bon, on a fait un dossier comme quoi, c'est pas assez, quoi. 300 euros, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec? Et puis, du coup, ils ont donné la solidarité pour complément de sa retraite, 500 euros. Et elle a touché ça jusqu'en 2017. Et puis, elle doit rester, bien sûr, la loi, elle doit rester 6 mois en France, malheureusement. Et puis, bon, ma mère, elle était un peu âgée, malade, et puis, elle respectait pas, quoi. Et puis en 2017, j'avais envoyé un courrier comme quoi elle veut toucher sa retraite en Algérie. Et depuis là, ils ont versé jusqu'en 2019, ils ont coupé après. Et puis elle est décédée malheureusement en février 2022, et là, ils me réclament de rembourser 34 000 euros.
Alors, les 34 000 euros, ils correspondraient à quelle période précisément?
Ben eux, ils réclament depuis 2015. Et moi, j'avais envoyé bien un courrier en 2017 en disant que sa retraite, elle, madame, elle veut toucher sa retraite en Algérie. Mais à ce moment-là, c'est vrai, ça a outrecoupé la solidarité, quoi. Moi, je pensais qu'ils l'avaient coupé.
D'accord. Et c'est un courrier que vous avez... Alors, il y a deux choses. D'abord, le courrier, vous l'avez envoyé dans quelles circonstances?
Ah, j'ai envoyé même pas en recommandé, j'ai envoyé comme ça. Juste
alors, déjà, on va oublier ce qu'on appelle en droit la force probante de ce courrier, monsieur. C'est-à-dire que si vous pouvez pas établir, justifier que le courrier a bien été envoyé, et en l'occurrence, il n'y a que le recommandé avec accusé de réception, donc c'est comme si vous n'aviez pas envoyé de courrier. Donc ça, c'est un premier point.
Et on ne peut pas prouver par rapport au versement qu'ils ont versé quand même sur le compte à l'étranger.
Ça me semble tiré par les cheveux. Alors de toute manière, vous savez, quand on n'a pas grand-chose sur quoi se rattraper, donc cet argument peut toujours être invoqué. Comme dirait l'autre, sur un malentendu, ça peut peut-être passer, mais... Voyez bien que c'est pas super carré. Ça, c'est le premier point. Deuxième point,
d'accord.
On peut considérer, entre guillemets, qu'il y a ou il y aurait de la mauvaise foi. C'est-à-dire que s'il y a de l'argent qui rentre sur le compte et que vous considérez qu'effectivement, alors l'argent arrive, on se dit, bah tiens, c'est tant mieux, mais on se pose pas la question de savoir l'origine de cet argent. Et puis, si vous déterminez l'origine en disant, non mais attendez, il y a une erreur, moi j'avais demandé à ce que ce soit stoppé, on va considérer que vous n'avez pas fait le nécessaire. C'est-à-dire que la bêtise de ce service L'erreur de ce service n'est pas un élément qui va, entre guillemets, vous excuser. C'est-à-dire, c'était à vous de dire à ce service, écoutez, vous continuez, malgré mon courrier, de procéder au versement de telle somme. Je vous signale que, et ça, j'imagine que ça n'a pas été fait.
Maître, c'est un jour, vous expliquez. Moi, je suis seul ici en France. Mes frères, ils sont tous en Algérie. Ma mère, elle est là-bas. Donc, je n'ai jamais su combien elle touchait exactement.
Ouais, mais c'est alors, vous comprenez bien que la difficulté, c'est qu'encore une fois, hein, je prends acte de ce que vous dites et je vous crois volontiers, mais
il y a la bonne foi aussi de.
Mais c'est pas un argument entre guillemets qui pourrait être invoqué. C'est-à-dire que même si vous me dites, bah oui, mais moi, je suis en France et puis il y avait mes frères, ben on vous dira, ben dans ce cas-là, c'était aux frères de prévenir, cher monsieur, et ainsi de suite. Ça me semble difficile parce que c'est souvent une question qui est posée, c'est-à-dire que les autorités.
On peut pas plaider le fait qu'on n'était pas au courant.
C'est pas qu'on peut pas le plaider, on doit le prouver. C'est très compliqué quand même.
Faut le prouver, oui, c'est vrai. Bah,
c'est la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, et ce qui est normal, si vous dites non, mais moi je savais pas, bah ok, excusez-nous de vous avoir dérangé, ce serait simple. Mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est à monsieur d'apporter la preuve. Comme quoi il n'était pas informé, ou alors qu'il a fait le nécessaire, mais il envoie un courrier en courrier simple. Donc c'est quand même une erreur. Il y a au moins ça qui aurait pu faire en sorte que. Donc ça me semble très difficile. Et c'est peu probable que si demain il y a litige, qu'un magistrat se contente de l'explication consistant à dire « Écoutez, moi mes frères sont au pays, ils devaient s'en occuper, moi je suis au courant de rien.
» Ouais, mais ce qui est le problème, c'est qu'il m'a quand même à moi. C'est moi l'héritier, quoi. C'est moi qui ai le droit de rembourser.
J'entends bien. Oui, j'ai bien compris. C'est d'où la question. Mais encore une fois, c'est pas un argument qui serait recevable.
Hein. Ah, d'accord. Donc, je consulte un avocat.
Mais votre mère, elle a jamais touché la pension de reversion de votre père, finalement?
Si, elle l'a touché. Elle l'a touché depuis son décès.
Oui,
elle a eu. Mais après, comme moi, j'avais demandé que c'était pas assez, parce que mon père, à l'époque, il touchait, je crois, 700 euros, et elle touchait que 300 euros.
Ah oui, les 300 euros, c'était la pension de reversion de votre papa, c'est ça?
C'était la pension de reversion. Tout à fait.
D'accord.
Mais ça a été dépensé, cet argent, il a été dépensé, monsieur?
Bah, il a été dépensé, malheureusement, oui.
Ouais, mais encore une fois.
Sauf le problème matériel, il me réclame jusqu'en 2022. Et ils ont coupé la pension complètement, elle ne touchait rien depuis octobre 2019.
Non mais après, voilà, c'est-à-dire que il y a entre guillemets des éléments particuliers.
Problème,
c'est-à-dire que si votre maman est décédée à telle date, ce sera à mettre en avant, ils ne peuvent pas demander plus, et ainsi de suite. Mais là, pour l'instant, ça risque d'être compliqué de ne pas rembourser une partie.
C'est ce que vous allez faire aussi, vous allez appeler Maître Serran après l'émission. Maître Serran, donnez votre numéro, s'il vous plaît.
Je suis joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Voilà, pour vous, Oussine, on accueille Nina qui est avec nous. Nina, bienvenue.
Oui, bonjour maître.
Bonjour Nina.
Bonjour. Voilà, j'ai une petite question à vous demander. J'ai mon fils, on est abonné, bien sûr, comme tout le monde, à SFR. Et ils nous ont fait inscrire vers Canal+. Et mon fils, il savait pas. Et quand le jour, il s'est rendu compte comme quoi qu'il est inscrit chez eux, et donc il nous demandait de payer. Il a payé deux mois. Et puis après, on a demandé à ce que ça soit annulé parce qu'on ne l'a pas demandé. Donc du coup, Canal+, il dit que c'est SFR. SFR, ils disent que c'est pas eux. Et il a payé pendant 3 mois et pendant 2 ans. Donc on voulait arrêter, ils veulent rien savoir. Alors mon fils, il a fait opposition et maintenant il nous réclame de repayer encore jusqu'à octobre prochain, sinon ce sera en justice.
Alors, on nous a souvent posé ce type de questions avec ces abonnements un peu curieux où il y a un petit astérix pour dire si vous revenez pas vers nous pour demander à être désabonné de telle ou telle option, l'abonnement sera automatique et puis tous les mois on va continuer à vous prélever. Alors c'est vrai que ce sont des conditions un peu drastiques.
C'est pas de la vente forcée, Mohamed Serran.
Non, c'est pas considéré.
Ah bon?
Non, en la matière c'est pas considéré comme de la vente forcée. C'est sur votre. Ouais, non, mais bien sûr, c'est sur votre contrat, mais je connais personne qui lit ou lirait attentivement ce type de contrat écrit en tout petit. Donc ça sert à rien d'aller devant un tribunal pour invoquer entre guillemets ce qu'on pourrait appeler une clause abusive. C'est assez particulier la clause abusive, c'est le truc où, pardon pour le terme, où on essaie de vous arnaquer. Donc là en la matière, on vous laisse regarder le programme pendant un certain temps et puis on vous dit si vous ne demandez pas à ce que ce programme soit arrêté, je dis n'importe quoi, au bout d'un mois, deux mois, c'est que vous acceptez d'être abonné.
Oui, c'est vrai, mais c'est voilà. Ils ont dit que c'était trop tard, mais mon fils, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait Canal+.
Oui, mais c'est toute la difficulté, madame. Le truc, c'est ça, c'est que ils n'ont pas l'obligation de vous téléphoner pour dire attention, l'abonnement, vous avez jusqu'à demain ou après-demain pour dire vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. C'est-à-dire qu'on considère que c'est à celui qui est concerné, donc en l'occurrence, on va dire à votre fils, d'être vigilant et de faire en sorte que maintenant, très souvent, vous êtes sur un montant de combien, madame ?
Normalement, c'était à 20 euros. Justement, avant-hier, il m'a appelé. Il m'a dit, je les ai rappelés plusieurs fois en leur disant qu'on n'en veut pas,
D'accord. Mais là, sur le montant
total,
il m'a dit,
maintenant, si vous voulez, on va faire un petit geste de notre côté. Au lieu de 20 euros, ça sera 18 euros. Jusqu'à octobre prochain. Justement, ils doivent rappeler madame, aujourd'hui. Ils m'ont dit après samedi, si vous... vous n'êtes pas d'accord, ça sera fait par la justice.
Ouais, alors ce que je conseille très souvent, alors que l'avocat ne devrait pas conseiller ça, c'est-à-dire que pour ce genre d'abonnement, chère madame, il faut les envoyer bouler. C'est-à-dire, alors, vous serez obligé de changer d'opérateur à un moment, mais compte tenu
non,
du montant...
Non, on n'est pas chez eux, on n'est pas chez Canal+. Bah
alors dans ce cas-là, madame, encore... non mais vous m'avez parlé des CFR. Voilà, est-ce que c'est lié aussi au téléphone?
C'est le gros vivendi. Vous êtes chez SFR au téléphone.
Oui, oui.
Voilà, pourquoi je vous dis ça? Pour éviter, entre guillemets, qui coupe tout. C'est-à-dire que dans ce cas-là, moi, ce que je conseille, c'est que bah, vous changez d'opérateur, et puis les courriers, bah, vous les stockez, mais vous savez, compte
tenu... Non, il n'y a pas de courrier, justement, c'est fait sur Internet. C'est pour ça que mon fils, il ne s'est pas rendu compte. Il n'y a aucun courrier, on n'a rien signé.
L'adresse Internet, madame, c'est votre fils qui a dû la donner, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pareil. Mais peu importe que ce soit le support papier, ou que ce soit un mail... encore une fois, le fait de ne pas répondre, c'est normal qu'ils disent attendez, on va aller voir un huissier et puis il y aura des saisies, on va vous embêter. Heureusement qu'ils vous disent ça, parce que si on vous dit on va vous laisser tranquille, ça ira pas plus loin. Donc je peux vous assurer qu'il y aura pas de poursuite vous concernant, puisque ça leur coûte beaucoup trop cher d'engager des procédures et de faire appel à un huissier de justice. Par contre, il est certain que il faudra changer d'opérateur. Et puis parfois, les gens oublient. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, 3 ans, ils reviennent vers l'opérateur initial avec qui ils étaient déjà en litige. Donc à ce moment-là, on vous rappellera que vous êtes blacklisté. Mais moi, je vous conseille honnêtement de pas de plus répondre, de plus les appeler et évidemment de pas payer. Mais ils iront pas jusqu'à vous poursuivre.
Voilà ce qu'on pouvait dire, Nouna. C'est quand même... Nina, on pourrait faire des actions collectives, hein, si les gens se regroupaient un petit peu, parce que ça, c'est la limite de la malhonnêteté, quand même.
Mais en même temps, je le redis, si c'est écrit noir sur blanc, et je vous dis, vous pouvez avoir Canal+ pendant 2 mois, et à partir de 2 mois, il va falloir payer, il faut aussi être vigilant. C'est-à-dire qu'on peut pas... Oui. Ouais, je peux pas appeler chaque type en disant « Bon, vous avez eu Canal+, est-ce que demain, vous voulez qu'on arrête ?» Il faut aussi que les gens fassent entre guillemets cet effort-là.
Ça ressemble quand même à de la vente forcée, je suis désolé, Maître Serran. Mais déguisé, mais. Vous prenez un téléphone et on vous colle Canal+, c'est pas la même chose.
Non, on vous colle pas Canal+, on vous colle Canal+, et on vous dit vous pouvez en bénéficier un certain temps, et ensuite, si vous continuez, vous aurez l'abonnement. Et je travaille pas pour Canal+, hein, en disant tout ça. Hein, donc
Non, mais vous, je sais très bien que Vincent Bolloré...
Je regarde.
Non, Vincent Bolloré vous a contacté. Hein, je connais très bien son frère. Il vous a contacté pour que vous soyez... l'imam, lui, il mange à tous les râteliers, l'imam. T'as vu, lui, il veut bien être l'imam de Vincent Bolloré.
Oui, salam alaikum, bonjour. J'ai écouté la conversation très, très, très intéressante. Mais il me semble que SFR, ils sont malins. C'est qu'ils te font, à un moment donné, une proposition où il faut appuyer sur un truc... ou qui ressemble à un abonnement, et qui ne ressemble pas du tout à un abonnement, mais qui finalement engage la personne
mais
qui
c'est
clique.
Vrai, mais
et le gars, il a certainement dû cliquer
probablement,
pour valider un abonnement.
Mais
c'est pas possible sinon.
Ça s'est arrivé aussi à des gamins qui font ça avec les téléphones des parents. Voilà,
vous voulez qu'on en parle, Maître Serran, qu'on retrouvera samedi prochain dans un instant. Vous avez entendu sa voix, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera avec vous pour l'islam au présent.
C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serrage.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.